Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. La glace fond, les températures grimpent et les ambitions augmentent. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, rendra public mercredi prochain un rapport alarmant sur l'avenir des océans et de la cryosphère, autrement dit, calotte polaire, banquise, glacier et permafrost, ces terres qui en principe restent gelées toute l'année. Le niveau des mers va monter de quelques centimètres chaque année, semble-t-il, obligeant à terme des millions de gens à quitter leurs rivages. Quant à la décongélation, elle s'accélère et la zone arctique, c'est-à-dire le pôle Nord, les mers et les terres environnantes, est en pleine mutation. Une évolution qui, loin d'inquiéter les grands pays, qu'ils soient riverains ou non, stimule leurs appétits. La cartographie change, la route du Nord-Est, le long des côtes polaires, devient de plus en plus navigable. En l'empruntant, la Chine se fait plus proche, la Russie se hâte de planter son drapeau sur les îlots nouveaux qui surgissent sur la carte, les immenses richesses en minerais et hydrocarbures enfouis dans le sol sibérien deviennent plus accessibles, enjeux économiques donc, mais aussi stratégiques, avec la multiplication et le renforcement des bases militaires russes. De leur côté, les États-Unis haussent le ton, transformant le Conseil arctique en une arène de confrontation plutôt musclée, aux grandes dames des Scandinaves, davantage soucieux de la détérioration de l'environnement et du sort des populations autochtones. L'Arctique et ses multiples enjeux, nouveau terrain d'affrontement entre la Russie, les États-Unis et la Chine, c'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Camille Escudé. Bonjour, bonjour. Vous enseignez à Sciences Po et vous êtes la vice-présidente du groupe nordique au groupe d'études géopolitiques de Normalsup. Magali Vuillerme, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes rattachée au laboratoire de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous travaillez aussi à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et vous travaillez aussi au Québec à l'Observatoire de politique et de sécurité arctique. Mika Mered, analyste politique, professeur de géopolitique des pôles à l'Institut libre des relations internationales. Alexandre Tête, vous êtes vous chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vous êtes le coordinateur de l'Observatoire de l'Arctique qui, il faut le noter, est soutenu par le ministère des Armées. Et puis nous aurons tout à l'heure au téléphone, depuis Moscou, Igor Jurgens, qui lui est le président de l'Institut du développement contemporain et membre du conseil d'administration de l'Union des industriels et entrepreneurs de Russie. Magali Villon, je commence avec vous. Ce rapport du GIEC, donc 900 pages, on le connaîtra dans sa totalité dans quelques jours. Les grandes lignes ont déjà été publiées, donc montée des eaux, érosion côtière, mise en danger de la sécurité des populations et aussi de certaines espèces. Est-ce que cela veut dire que cet univers très vaste et très diversifié, que l'on appelle l'Arctique, est véritablement en proie sur le plan environnemental à une mutation inexorable ?
Oui, tout à fait. Si l'on prend par exemple l'exemple du pergélisol, donc qui est le terme français pour le permafrost, et qui désigne la partie du sol gelée en permanence pendant plus de 2 ans, l'intégralité des habitations et des communautés et des villes arctiques sont construites sur du pergélisol. Ce pergélisol fond de plus en plus, dégèle de plus en plus, et cela pose un point de vue, un risque pour les infrastructures, que ce soit pour les habitations, mais également pour les infrastructures routières. Donc l'on sait que les communautés arctiques sont reliées en été par voie aérienne et en hiver par le biais de routes glacées.
Qu'est-ce que ça représente en nombre, ces populations, dans cet immense espace ?
L'Arctique, c'est environ 4 millions de personnes, dont 2 millions en Russie. Et on a par exemple beaucoup moins de personnes au Canada. Si on prend le Nunavut, qui est un territoire autonome du Canada, c'est 39 000 habitants. Or, le Nunavut représente 21% du territoire canadien, c'est-à-dire 1 937 000 km² de terre, soit 3 fois la France.
Oui, donc un espace global. Si l'on regarde la carte à partir du pôle Nord, c'est donc un espace gigantesque où il y a énormément de mer.
Tout à fait. Oui, oui, c'est avant tout un espace maritime avant d'être un espace terrestre. Mais si l'on parle population autochtone, on touche à la terre avant de toucher à la mer. Et donc ces populations autochtones, à cause des changements climatiques, ont beaucoup de menaces, notamment pour leurs risques sécuritaires alimentaires. Il y a par exemple, à cause du dégel du pergélisol, des changements de migration de population de rennes, donc ce qui représente un risque alimentaire pour les populations qui, dont la consommation de rennes est la base de la nourriture, notamment en Sibérie. Il y a également beaucoup de communautés où il y a des frigidaires donc qui sont creusés à même le pergélisol. Et c'est une technique de conservation traditionnelle qui est mise en péril par ces changements.
J'ai même lu quelque part qu'il y a désormais un commerce de l'ivoire de mammouth à poils laineux. Et ce sont les Chinois qui sont très amateurs d'ivoire. Et alors, il semblerait donc des mammouths conservés depuis des centaines de des milliers d'années par la glace. La glace se ramollit quelque peu. Et donc, il semblerait qu'on ne peut pas interdire les chasseurs d'aller creuser la glace parce que les mammouths ne sont pas classés parmi les espèces en voie d'extinction. C'est pas une blague.
Oui, non, il y a un flou juridique qui existe en Sibérie et ce dégel du pergélisol qui dégèle donc de plus en plus en profondeur fait ressortir toutes ces ossements de mammouths et il y a aussi une problématique culturelle là-dedans, c'est-à-dire que si l'on prend une culture autochtone, pour eux, ce qui vient de la terre est sacré. Et donc, il y a aussi un problème intergénérationnel entre les jeunes qui, pour eux, voient une source financière très importante et les plus anciens qui voudraient qu'on laisse ces mammouths, ces reliques de mammouths dans la terre pour ne pas violer l'aspect sacré de ces reliques.
Mika Meret, ce sont des sous-sols qui, pendant, encore une fois, des centaines, sinon des millions d'années, ont été impossibles d'accès, qui maintenant le deviennent davantage. Donc, les enjeux économiques sont considérables, à commencer par ce qui se passe dans le sous-sol sibérien, dans l'espace, disons, russe.
Absolument. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas un Arctique, il y a des Arctiques. Et à partir de là, il y a des zones qui sont aujourd'hui en voie de dégel ou en voie de fonte. Il y a même des zones de l'Arctique, au nord du cercle polaire, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui même de post-polaire déjà. Par exemple, la mer de Barents, le sud de la mer de Bering. On peut envisager aussi le sud-ouest du Groenland, qui là est au sud du cercle polaire, mais qui néanmoins fait partie d'un pays qui est considéré comme Arctique. Donc ces zones-là sont libres de glace toute l'année. Et évidemment, on a pu faire un certain nombre d'explorations depuis déjà plus de 100 ans sur les affaires minières, sur les ressources pétrolières, gazières, pour savoir ce qu'il y avait. Et aujourd'hui, évidemment, mais c'est le cas depuis plus de 100 ans déjà, on exploite du pétrole et du gaz en Arctique.
Et donc, ces ressources représentent pour la Russie, d'après ce que j'ai compris, 10% du PIB, ce qui est quand même considérable, et plus du cinquième des exportations. Donc, c'est véritablement une zone économique majeure pour l'économie russe.
Si on parle de l'Union européenne dans son ensemble, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, quasiment un quart des ressources gazières qui sont consommées dans l'Union européenne proviennent de la zone arctique. Proviennent de la zone arctique russe, bien sûr, et de la zone arctique norvégienne, principalement. Donc ça, c'est déjà une réalité. Mais si on va plus loin que ça, ce qui est intéressant, en Russie particulièrement, c'est de voir à quel point la zone arctique est déjà importante. Vous l'avez dit, c'est une zone qui, au niveau du PIB et des exportations, est déjà très significative, mais si on va plus loin et qu'on parle juste du gaz, puisque c'est l'enjeu principal aujourd'hui dont on parle avec les projets Yamal LNG, Arctic LNG 2, etc., il faut savoir qu'aujourd'hui en Russie, la zone arctique produit déjà 80% du gaz russe. Donc quand on parle de gaz russe et des enjeux avec l'Ukraine, avec le Danemark pour Nord Stream 2, etc., on parle forcément d'Arctique.
Donc il y a le gaz, le pétrole jusqu'à un certain point, et les minerais en tout genre.
Et les minerais, ça c'est quelque chose qu'on exploite en Arctique depuis même plus longtemps, depuis à peu près 150 ans, depuis le milieu du 19e siècle, et on trouve absolument de tout. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, en particulier sur les minerais, au-delà de la question du Groenland sur laquelle on reviendra certainement, ou du Canada, c'est que encore une fois, en Russie, vous avez énormément de ressources qui sont aujourd'hui intéressantes, pour nos amis européens, bien sûr que nous sommes, mais aussi nos amis chinois, et en particulier terres rares.
Et donc cela veut dire le développement des routes, parce qu'à partir du moment où il y a des ressources qu'on exploite, il faut évidemment les sortir
tout
de
à
cet
fait.
Espace.
Ça coûte très cher aujourd'hui d'exporter ces ressources qui sont extraites de l'Arctique par des moyens terrestres ou même par des moyens aériens depuis la zone arctique jusqu'au sud. Donc, en effet, c'est principalement la question de ces ressources-là, et on peut citer le pétrole, le gaz, le minerai, on peut citer aussi le bois, la pêche et plein d'autres choses, qui fait que les routes maritimes se développent aujourd'hui, et peut-être dans 20 ans ou 30 ans, on n'aura plus simplement un transport maritime de ressources, mais un transport maritime aussi de containers.
Et donc ce fameux passage du nord-est, donc il y en a deux, hein, le nord-est et le nord-ouest, quand on regarde encore une fois la carte en partant du pôle, donc le passage du nord-est est désormais ouvert, en tout cas pendant l'été.
Alors, il y a même trois passages. C'est-à-dire que depuis maintenant un an et demi à peu près, les Chinois n'hésitent pas à qualifier la route centrale qui passe par le pôle, qui passera par le pôle à l'horizon de la deuxième moitié de notre siècle, ils la qualifient de route arctique centrale. Et ce que les climatologues nous montrent, c'est que le passage du Nord-Est est déjà ouvert aujourd'hui, et il y a des passages toute l'année par le passage du Nord-Est aujourd'hui. Puis, ce qui devrait fondre en deuxième, être accessible en deuxième, c'est justement cette route arctique centrale au niveau du pôle. Puis ensuite, le passage du Nord-Ouest.
Et donc ça, éventuellement, dans quelques dizaines d'années. Igor Jürgens, merci mille fois d'être au téléphone avec nous. Je rappelle que vous présidez l'Institut du développement contemporain à Moscou et que vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Union des industriels et entrepreneurs russe, évidemment, un milieu du business russe qui a des intérêts majeurs dans la zone arctique russe.
Absolument, oui. C'est surtout les compagnies publiques comme Rosneft, Gazprom, mais il y a les compagnies privées qui sont très intéressées aussi. Maintenant, c'est difficile, maintenant c'est cher, mais ça devient de plus en plus intéressant.
Évidemment, il y a une longue histoire de l'exploitation par la Russie de la zone polaire, à commencer bien sûr par les expéditions.
J'ai 66 ans et dans mon jeunesse, toutes les jeunes soviétiques ont été éduqués sur les thèmes d'héroïsme des soviétiques dans les régions polaires, des exploits, etc., etc. Donc, à partir du 12e siècle, les Russes ont été là. Je peux vous rappeler que notre superficie, notre territoire nordique sur l'océan glacial, c'est 5 millions de mètres carrés, c'est-à-dire 10 territoires de France. Donc, pour nous, c'est très important, toujours très important, et donc l'histoire est très tangible.
L'histoire est évidemment toujours présente, mais aujourd'hui, et à entendre les discours successifs du président Poutine, on se rend compte que cette zone a non seulement l'importance économique que l'on sait, mais de plus en plus une importance militaire et donc géopolitique.
Absolument. Maintenant, après certaines déclarations de l'administration américaine, pas Trump, mais même avant, l'administration Bush, l'administration Clinton, même Clinton et Obama, les Russes deviennent de plus en plus inquiets sur les conséquences militaires de coopération, confrontation dans les régions arctiques. Et maintenant, d'après nos informations, il y a des divisions des Russes dans soi-disant l'armée arctique avec les bases très importantes, avec les très impressionnantes technologies, équipements, etc. etc. Ça devient de plus en plus militaire et militariste même.
Vous évoquez les États-Unis. Est-ce que vous pensez que là aussi il y a un raidissement entre les intérêts russes dans la zone arctique et la manière dont les États-Unis, on l'a vu récemment avec un discours du secrétaire d'État Pompeo au Conseil arctique, je crois que c'était en mai dernier, les États-Unis qui prennent conscience en quelque sorte de l'avancée spectaculaire sur le plan militaire de la présence russe dans ces zones.
Mm-hmm. Je travaillais pour Monsieur Medvedev quand il était le président, et à l'époque, 2008, 2009, 2010, c'était très très pacifique, dirais-je. C'était la coopération fructueuse dans les zones arctiques. Et il y a bien sûr des frontières connues entre Tchoukotka et Alaska. Nous avons les frontières communes avec les États-Unis. Et c'était plus ou moins, diplomatiquement parlant, c'était très, très fructueux. Maintenant, ça devient une zone de confrontation. Il y a des choses agressives déclarées d'une part et de l'autre. Monsieur Poutine, Monsieur Trump, qui essaie d'acheter Groenland pour les raisons géostratégiques aussi. Pompeo, vous avez raison. Maintenant, dans les zones arctiques, nous avons beaucoup d'inquiétudes.
Monsieur Jürgen, si vous voulez bien rester avec nous quelques minutes encore par téléphone, parce que j'aimerais vous poser évidemment quelques autres questions. Mais d'abord, Camille Escudé, expliquez-nous comment et pourquoi l'administration Trump a véritablement changé de ton de façon extrêmement incisive, sinon agressive, à propos de l'Arctique.
Je pense que l'administration Trump s'est rendue compte, peut-être un peu tard, qu'elle avait effectivement un train de retard sur notamment la Russie, on l'a vu, qui est présente en Arctique de manière continue depuis très longtemps. C'est pour la Russie, ces territoires arctiques sont quelque chose de très important. Pour les États-Unis, c'est un intérêt plus récent ou plus davantage en pointillé. Et là, ce qu'on remarque depuis quelque temps, c'est un réinvestissement de la scène arctique de la part de la Russie, des États-Unis, pardon. Et effectivement, le discours que vous avez évoqué de Mike Pompeo en mai l'a montré, avec un discours très agressif, à la fois contre les investissements chinois et la présence chinoise perçue comme une agression et la présence russe. Mais effectivement, de la part des Russes, ça reste une présence qui est défensive des intérêts économiques et politique dans la région. Et c'est vrai que le contre-coup de ce genre de discours, c'est que, comme vient de le dire ce monsieur au téléphone, du point de vue russe, le méchant, ça devient Trump, qui a un discours encore plus agressif que les Russes, finalement.
Et le vice-président Mike Pence était, lui, en Islande, il y a quoi, une quinzaine de jours?
Exactement, au début du mois de septembre, on se souvient que Donald Trump a annulé sa visite diplomatique à Copenhague après s'être froissé qu'on ait refusé de lui vendre le Groenland.
Il a qualifié la première ministre danoise de méchante.
Oui, voilà, oui. Pas très quelque chose de pas très gentil. Oui. C'est vrai qu'on en a moins parlé, mais le vice-président américain s'est effectivement rendu en Islande pour en fait faire un peu la même chose. Et on peut lire sur le site le communiqué de la Maison Blanche que les deux objectifs du vice-président en Islande, c'était d'une part de développer des partenariats économiques et commerciaux. Donc là, on sent un peu une attitude défensive par rapport aux intérêts chinois et russes. Et le deuxième objectif de cette visite en Islande, c'était contrer la politique russe encore perçue comme agressive.
Igor Jürgens, je reviens vers vous. Merci d'être avec nous au téléphone depuis Moscou. On voit que la Chine, vous l'avez mentionné vous-même, Camille Escudé vient de le faire, la Chine aussi affiche des ambitions dans une zone géographique qui, quand on regarde la carte traditionnelle, est vraiment très éloignée. Comment expliquez-vous la façon dont les intérêts chinois se font de plus en plus présents?
Dans les années 2007-2011, on a ridiculisé les positions de la Chine parce que on a pensé, les experts, les militaires ici en Russie, que c'est un peu trop pour vous Chinois de prétendre que vous êtes le pays arctique. Ils ont soumis l'application au conseil comme les observateurs, conseil nordique polaire. Comme observateur. Donc, c'était ridiculisé. Maintenant, étant donné que nous sommes poussés vers la Chine dans notre confrontation avec l'Occident, on déclare les coopérations stratégiques, la position est devenue un peu plus, comment dirais-je, compréhensible, un peu plus coopérative vers la Chine et Arctique. J'imagine que, du point de vue des intérêts économiques, le transit des marchandises chinois par les voies nordiques polaires à travers des territoires russes, ça représente quelque chose d'intéressant. Mais je crois que les calculs géostratégiques militaires, ça joue là-dedans aussi.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'à terme, même si on assiste depuis quelque temps à un rapprochement affiché entre les présidents russes et chinois, à terme, il y a quand même une rivalité évidente?
On a craint de Chine. Nous sommes indignés par certains comportements dans les régions de Vladivostok, Khabarovsk, etc., etc., parce que c'était l'exploitation totale et désastreuse. Donc, les Russes, dans la Russie profonde, ils sont contre. Mais il y a des stratégies géopolitiques. Donc, à mon avis, si quelque chose améliore avec l'Occident, on va voir le durcissement avec la Chine, mais pas avant.
Igor Jurgens, merci mille fois de nous avoir ainsi éclairé sur le point de vue russe, la vision russe de l'Arctique. Camille Escudé, je reviens vers vous. La Chine, donc, retrouve sa vocation maritime qu'elle avait abandonnée pendant quelques siècles. Et on vérifie qu'il y a des investissements chinois très importants en Sibérie, je pense notamment à l'exploitation de gaz liquéfié Yamal, dans lequel Total, à l'époque de Christophe de Margerie, avait beaucoup investi. Je crois qu'il y a maintenant d'ailleurs un Yamal 2, la même compagnie russe, donc Novatek, plus Total, plus des Chinois. À chaque fois, les Chinois sont là.
Oui, absolument. Les Chinois sont omniprésents dans l'Arctique. Dans le discours de Mike Pompeo, avait justement fustigé la présence agressive chinoise en donnant, il me semble, le chiffre de 90 milliards de dollars. C'est un chiffre qui est difficile à vérifier, mais ça dit en tout cas l'ampleur de la présence chinoise. Dans le projet Yamal que vous avez évoqué, également, la France avec le groupe Total est présente à 20%. Deux groupes chinois sont également présents à hauteur à peu près de 30%. Mais ces investissements, ils se font non seulement dans des infrastructures effectivement gazières, mais également des infrastructures de transport en Sibérie, mais également dans les pays scandinaves et également en Islande, au Groenland, etc.
Et donc, du point de vue chinois, on sait que la Chine a toujours, évidemment, un régime très autoritaire favorise cette approche, mais il y a toujours une vision à très long terme, plus longue encore que la vision du Kremlin.
Oui, absolument, et tellement à long terme que les États-Unis, sur ce coup-là, ont l'impression de s'être fait dépasser, que la Chine, aujourd'hui, a vraiment une longueur d'avance dans tous ces projets qui étaient au début scientifiques et, en fait, qui, on se rend compte, qui ont une très forte valeur industrielle et économique.
Mika Mered.
Oui, il faut relativiser quand même la place de la Chine en Arctique, c'est-à-dire qu'ils sont présents, en effet, dans les 8 pays de la zone, sous la forme d'investissements directs ou indirects. Dans le cas du Groenland, par exemple, ce sont des prises de participation capitalistique dans des entreprises qui, elles, investissent et qui, d'ailleurs, sont pour la plupart non arctiques. Mais ce qui est intéressant, surtout par rapport à l'avenir, au futur, c'est que les Chinois ont développé une stratégie arctique qui se positionne sur l'an 2049, sur le centenaire, tout simplement, de la Chine contemporaine, et la logique de la nouvelle route polaire de la soie, Ice Silk Road ou Polar Silk Road, comme vous voulez, qui à la base...
Ça, c'est pas du chinois. Hein,
c'est pas du chinois, on est bien d'accord, mais je peux vous dire en chinois si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'était un projet qui émanait de la Russie, qui est allé chercher les Chinois dès 2010-2011 pour que les Chinois investissent dans ces routes maritimes. Et depuis, le projet leur a un petit peu échappé. Et les Chinois, aujourd'hui, essayent, notamment avec Costco, de mettre le paquet pour développer cette route. Mais dans le même temps, et j'arrêterai là, rassurez-vous,
Je ne me rassure pas du tout, continuez.
Ah, c'est super, j'ai le droit d'être un petit peu long, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ce qui est intéressant par rapport à Costco et par rapport aux Chinois, c'est cette idée que de l'autre côté, même si ce sont à la base les Russes qui sont allés les chercher, les Islandais aussi sont allés les chercher après la crise, aujourd'hui on voit quand même beaucoup de signaux faibles en Russie et ailleurs qui laissent penser que plus les Chinois arrivent en Arctique, plus vous pourriez avoir une forme de coalition régionale pour empêcher les Chinois de véritablement pénétrer à très long terme dans l'espace arctique et en particulier de faire naviguer des navires militaires.
Hamdam Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, notre partenaire, et vous avez relevé dans la presse, tantôt américaine, tantôt scandinave, beaucoup de papiers très intéressants sur la manière dont l'administration Trump essaye de réagir face à cette double offensive à la fois russe et chinoise.
Oui, vous l'évoquiez tout à l'heure, et c'est à la mi-août le Wall Street Journal qui révélait cette information fracassante. Donald Trump voulait donc acheter le Groenland. Alors, les États-Unis, en fait, n'ont pas attendu Trump pour se rendre compte de l'importance stratégique de cette île gigantesque, rappelle le Wall Street Journal. Un traité militaire conclu dès les années 40 posait une base
américaine. Avec le Danemark.
Voilà, avec le Danemark, posait une base américaine où se trouvent notamment des infrastructures stratégiques pour les États-Unis, puisqu'il y a une partie du bouclier contre les missiles balistiques. Alors, le quotidien danois Jyllands-Posten, qui a beaucoup commenté cette affaire de rachat du Groenland, ne s'est pas étonné, en fait, des velléités du dirigeant américain. Car, dit-il, même s'il est facile de sourire face à l'idée de Trump, il y a assez de substance derrière sa pensée pour comprendre que la course à l'Arctique bat son plein. Alors cela montre aussi, ça c'est plus un point de vue plus danois, mais qu'en fait les velléités indépendantistes du Groenland sont plutôt illusoires, dit le journal danois, parce que ce territoire autonome, habité par 56 000 personnes et couvert à 80% de glace, pour l'instant compte beaucoup sur l'allocation annuelle qu'il reçoit du Danemark.
Néanmoins, ça a créé une brouille, un coup de froid, si j'ose dire, entre Washington et Copenhague.
Oui, cette affaire a surtout montré, ça c'est le quotidien danois Politiken qui le dit, que le Danemark, qui voyait en fait dans les États-Unis son allié principal, devrait peut-être revoir ses amitiés et se tourner davantage vers l'UE, surtout après, vous l'évoquiez tout à l'heure avec Camille Escudé, l'annulation de cette visite et les propos échangés entre la première ministre danoise Mette Frederiksen, qui a qualifié donc cette proposition d'absurde, et la réponse de Trump, vous êtes méchante. Donc alors, par contre, il y a quand même aux États-Unis des gens qui ont beaucoup soutenu Donald Trump, notamment la presse conservatrice, par exemple le Washington Examiner, qui dit « Les mauvais esprits ont commencé à se moquer de lui, mais cela n'est que la preuve que les anti-Trump se caractérisent par leur ignorance remarquable sur les questions qui concernent notre pays. L'une d'entre elles est l'importance vitale du Groenland, une région qui est très mal gérée par les Danois », écrit le journal. « Ces Danois, obsédés par l'environnement, condamnent la population à la pauvreté. » Alors, évidemment, d'autres journaux s'intéressent à la prépondérance de la Chine, comme le magazine américain Forbes, qui dit « Trump veut peut-être acheter le Groenland, mais son ennemi, la Chine, était là avant lui. C'est en découvrant l'étendue des investissements chinois que Trump s'est intéressé au Groenland », écrit pour sa part le journal de Washington, The Hill. La Chine est par exemple très présente au Groenland, vous le disiez tout à l'heure, avec des infrastructures de télécommunications, par exemple avec sa marque Huawei. Et il y a encore beaucoup d'investissements qui peuvent être faits dans les terres rares. Alors, le problème, dit le journal de Hill, c'est que Washington n'a pas encore de vraie stratégie pour contrer Pékin. Mais le quotidien hongkongais, le South China Morning Post, lui rappelle que à chaque fois que Pékin a montré ses ambitions stratégiques dans la région, toutes ses tentatives en fait se sont un peu heurtées à des impasses. Par exemple, le Groenland a voulu que la Chine construise trois aéroports en 2018 et la région a fait face au veto américain qui a fait pression sur le gouvernement danois pour qu'il les finance lui-même. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation qu'en fait le South China Morning Post. Et d'en conclure, de la part de Trump, proposer d'acheter le Groenland, c'est un message très clair envoyé vis-à-vis de la Chine et du Danemark pour leur signifier que le Groenland fait partie d'une zone stratégique américaine exclusive.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Okrent.
Alexandre Tête, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et c'est vous qui coordonnez donc cet observatoire de l'Arctique dont j'ignorais l'existence, je l'avoue, et qui est soutenu par le ministère des Armées en France. Quel est l'aspect, selon vous, qui est le plus préoccupant pour nous autres Européens non scandinaves? Donc, on n'est même plus observateur, je crois. On a plus de fauteuil dans ce Conseil arctique qui regroupe les 8 États qui, eux, sont véritablement les puissances régionales, si j'ose dire. Donc, quel est l'intérêt de la France de s'intéresser sur le plan géostratégique à l'Arctique?
En fait,
Tout simplement, je crois que c'est déjà comprendre ce qui se passe, peut-être ne pas rater un train important qui entraînerait des dynamiques économiques et politiques dans le futur. Et donc c'est vrai que l'objet de l'observatoire, c'est de réunir un petit peu des chercheurs variés, d'ailleurs et Camille et Magali ici contribuent à cet observatoire, pour essayer d'apporter et de faire une médiation un petit peu auprès du ministère sur les enjeux à suivre. Et pour un pays, à mon avis, comme la France, l'enjeu, c'est plutôt de se dire, on n'a pas d'intérêt direct en Arctique, on n'a pas de possession, et la France a bien un siège d'observateur qui est certes très symbolique, mais en tout cas, elle participe indirectement comme cela aux travaux à l'actualité du Conseil de l'Arctique.
Et je me souviens que Michel Rocard, qui était ambassadeur pour les pôles et que nous avions eu le bonheur d'accueillir dans cette même émission il y a quelques années déjà, nous avait grogné, bien à sa façon, contre le dédain manifesté par les membres de plein droit du Conseil Arctique à l'égard des observateurs, de tous ceux qui ont des strapontins et à qui on demande en gros de se taire.
Ah oui, alors le Conseil Arctique là-dessus fait l'objet de beaucoup de critiques, et c'est vrai que c'était un des enjeux pour les pays non arctiques, c'est-à-dire de s'assurer que dans le futur, l'Arctique ne devienne pas une sorte de bien de club géré par 5 ou 8 États, donc 5 États riverains de l'océan Arctique ou les 8 États membres du Conseil Arctique. Et en fait, aujourd'hui, on voit réapparaître des enjeux qui étaient déjà dans la tête des diplomates depuis des décennies, des enjeux juridiques, et qui gagnent en importance à nouveau parce que justement, comme l'a décrit par exemple Mika, les enjeux économiques aussi se sont affirmés.
Et les enjeux juridiques, ça veut dire quoi ?
Alors les enjeux, c'est notamment de garantir dans le futur l'accès à l'Arctique et d'une moindre mesure aussi l'exploitation des ressources, en tout cas un partage. Et ensuite, des pays comme la France, évidemment, n'ont pas le but d'aller s'installer dans une zone économique exclusive, mais plutôt d'accompagner les entreprises françaises, qu'elles aient un accès libre aussi à ces marchés.
Mais sur le plan juridique, la liberté de navigation est garantie dans toutes les mers du monde par des conventions internationales. Est-ce que cette liberté-là est menacée par les puissances arctiques ?
En fait, elle l'est mécaniquement. Et comme les enjeux n'étaient pas suffisants pour l'instant, les enjeux économiques... Les chancelleries étrangères à l'Arctique, qui n'ont pas de lien direct avec l'Arctique, étaient rétives à engager un différend juridique devant une cour internationale, qui aurait eu un coût diplomatique très fort pour des enjeux incertains. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Mike Pompeo a cité justement le problème des statuts.
Le secrétaire d'État américain.
Justement, lors de cette déclaration la veille de l'ouverture du Conseil des ministres de l'Arctique, a cité le problème du statut juridique de la route maritime du Nord et du passage du Nord-Ouest, parce que justement, le Canada et la Russie considèrent finalement ces routes maritimes pour partie ou totalité pour le Canada comme traversant leurs eaux intérieures. Juste pour rappeler quand même, les eaux intérieures, c'est juste la différence entre le niveau des eaux à marée haute et marée basse. Et c'est ça qui détermine ce qu'on appelle la ligne de base pour le calcul des zones maritimes. Donc on comprend tout de suite que c'est une conception très restrictive du droit international qui n'a pas été combattue jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est aussi pour ça que des pays comme la Chine ou même la France, qui a envoyé un bateau militaire qui a fait la traversée en septembre 2018, essaye de pratiquer l'Arctique, mais aussi pour pas que cet espace soit de facto...
Privatisé, en quelque sorte.
Privatisé, exactement.
Enfin, nationalisé.
Nationalisé. Et donc, la Russie, par exemple, exige qu'il y ait une déclaration préalable d'un passage de 45 jours. Ce n'est pas prévu par la Convention des droits de la mer de Montego Bay de 1982. Elle va quasiment imposer la présence d'un pilote, ça dépend les saisons, quoi, les périodes, mais c'est quasiment systématique, d'un pilote russe, voire de l'accompagnement d'un brise-glace. Donc, tout ça...
Brise-glace militaire.
Alors, pas forcément, mais en tout cas, il y en a qui ont un statut militaire, mais en tout cas, le prix de cet accompagnement est plus cher, par exemple, que le droit de passage au canal de Suez. Donc, en fait, ils sont sur une ligne très, très fragile entre, d'un côté, leur ambition de développer le trafic maritime dans cette zone et en même temps de contrôler le type de navire qui peut y passer. Ils ont interdit, il y a quelques semaines, le passage d'un navire de tourisme norvégien au nom d'un exercice militaire. Voilà, c'est la même chose.
Il y a un autre problème juridique, pardon, je vous interromps, qui concerne les normes d'exploitation, et notamment dans le secteur pétrolier. Alors expliquez-nous ça.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, après le droit de la mer, il y a une sorte de vide ou de normes à déterminer pour le Grand Nord. Et par exemple, l'administration française avait relevé effectivement le cas des normes ISO, qui servent à accompagner, à encadrer finalement l'exploitation pétrolière et gazière dans le Grand Nord. Et en fait, on s'est aperçu que dans des sous-groupes de travail de l'ISO, l'Organisation internationale de la standardisation, ben c'était juste les Finlandais et les Russes qui déterminaient ces normes en favorisant leur industrie. Et en fait, la France, évidemment, n'a pas les moyens humains et techniques de suivre les négociations de cette technicité.
Donc les Russes pourraient aller jusqu'à exiger que les bateaux naviguant dans les eaux polaires soit fabriqué en Russie, c'est possible?
Alors oui, ils l'ont annoncé depuis le 1er janvier 2019, effectivement. Et là encore, ils vont devoir mettre un petit peu dans leur vin, mais ça montre qu'effectivement, ils vont vouloir protéger leur chantier naval. Et c'est pour ça qu'il y a ces enjeux juridiques qui étaient secondaires il y a encore quelques temps, redeviennent prégnants et finalement témoignent un peu de ce risque de privatisation. Ça touche aussi des pays, entre guillemets, alliés de l'Europe. Je pense à la Norvège et au Svalbard, qui est un archipel arctique norvégien à mi-chemin entre la Norvège continentale et le Grand Nord, où on voit qu'il y a un contentieux très étonnamment virulent avec la Commission européenne. La Commission européenne qui attribue des permis de pêche à des bateaux européens. Et ces bateaux de pêche sont arraisonnés par la marine norvégienne qui estime qu'ils n'ont pas le droit d'être dans ces eaux-là. Donc en fait, il y a toute une série de petits ou gros enjeux juridiques ou de normalisation, de détermination de standards, qui font que si on ne les affronte pas maintenant, on va se laisser installer des représentations ou des usages qui seront très compliqués à détricoter dans 10 ans, dans 20 ans.
Camille Escudé, est-ce que au niveau européen, et encore une fois, ne parlons pas pour le moment des pays scandinaves, dont on comprend qu'ils sont membres de plein droit, ce qui tombe sous le sens du Conseil arctique, mais est-ce qu'au niveau européen, il y a un minimum de consensus sur ces questions ?
Je pense que oui, il y a un minimum de consensus sur ces questions. C'est vrai que vous évoquiez la question du siège d'observateur de l'Union européenne au Conseil de l'Arctique. En fait, actuellement, l'Union européenne, elle a un statut d'observateur ad hoc, donc elle a une moitié de strapontin, elle est à moitié là, à moitié pas là. Elle n'a pas un statut officiel, justement pour les questions dont on parlait, assez difficiles de tension entre exploitation et sanctuarisation. C'est vrai que les pays de l'Union européenne globalement ont une vision très restrictive de la protection de l'environnement, qui ne plaît pas vraiment aux 8 États de l'Arctique, aux 5 États riverains dont le bien-être économique et le développement économique dépendent de l'exploitation.
Même donc, si certains pays scandinaves, au contraire, s'érigent en champions de la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, il y a quelques contradictions. Il y en a partout d'ailleurs. Oui, il y en a chez nous aussi. Mais bien évidemment, dans le cas des pays scandinaves, c'est assez clair.
Oui, mais c'est vrai que oui, la contradiction que vous soulignez, vous pensez peut-être à la Norvège pour qui l'exploitation pétrolière est une source de revenus extrêmement importante. En même temps, la Norvège c'est également mettre en œuvre des normes environnementales, notamment mises en place au sein du Conseil de l'Arctique, des normes environnementales qui permettent une exploitation certes d'hydrocarbures, mais un peu plus encadrée que pour d'autres pays, peut-être en Russie par exemple, où ça peut être fait de manière un peu plus anarchique.
Oui, là, vous avez un langage quasi diplomatique. On peut imaginer que les normes dans les vastes espaces sibériens ne sont pas véritablement la première préoccupation. Mika Mered, on n'a pas encore vraiment parlé du Canada. Quelle est la politique du Canada vis-à-vis de l'Arctique ? Est-ce qu'il y a eu un revirement entre le gouvernement conservateur qui a précédé celui de Justin Trudeau ?
Vous avez raison, le Canada, on est à peu près au même niveau que l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs différents, de lobbies qui sont en train de se battre pour essayer de définir la stratégie nationale. Et en réalité, pour l'instant, il n'y en a pas encore véritablement. Au niveau de l'Europe, les choses sont claires, c'est-à-dire que on a décidé que d'ici 2021 et une future nouvelle stratégie européenne, il faudrait régler la question. Au Canada, c'était le job du gouvernement Trudeau qui avait dit « nous allons, dans notre mandat, publier une nouvelle stratégie fédérale pour l'Arctique ». Et ben le mandat arrive à son terme et ils ne l'ont pas publié.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez en réalité beaucoup de lobbies environnementaux, et c'est pas une mauvaise chose, du Sud, qui disent il faut sanctuariser l'Arctique, ou en tout cas, il faut des normes très élevées, voire des normes qui sont si élevées que ça met des barrières à l'entrée pour éviter que des entreprises étrangères, mais aussi nationales, ne puissent pénétrer en Arctique. Et puis d'autre côté, vous avez les décideurs locaux, que ce soit des décideurs élus ou que ce soit des décideurs de tribus, qui disent clairement, nous, on aimerait bien quand même exploiter la zone.
Et là, oui, et donc là, on voit les populations autochtones qui préfèrent avoir des ressources. Magali Villem, vous travaillez au Québec. Ces populations autochtones préfèrent avoir des ressources, quitte à ce que l'environnement soit légèrement bousculé.
Il faut trouver un équilibre entre le développement économique et le bien-être de ces communautés. La politique fédérale canadienne est toujours en attente, mais les communautés inuites ont été beaucoup intégrées dans le processus de cette politique. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça met du temps à se mettre en place. Marie Simon avait fait tout un travail en amont de cette élaboration en 2017, où elle expliquait que ce qui était important maintenant
pour les communautés... Et qui est cette dame ? Pardonnez-moi.
Marie Simon est une figure politique inuite incontournable du Canada. Mm-hmm. Et elle avait expliqué que ce qui était important pour les communautés inuites du Canada, c'était avant tout les besoins en infrastructures, en logement, et aussi le besoin d'énergie propre, parce que pour l'instant les communautés arctiques ne sont, enfin la source d'énergie c'est du fioul, donc c'est absolument pas d'un point de vue écologique viable, mais c'est leur seul moyen de chauffage, d'électricité à ce jour.
Alors, il va y avoir des élections fédérales au Canada fin octobre. Est-ce que la question arctique va faire partie des enjeux face à un parti conservateur qui, évidemment, met en cause la politique de Trudeau ?
Oui, bien évidemment, parce que l'Arctique fait partie intégrante de l'identité du Canada. Et donc, c'est vraiment très, très important pour la population canadienne de régler ses soucis. Ce qui est très important à retenir, c'est que Justin Trudeau a quand même fait tout un processus de réconciliation avec les populations autochtones qui ont été opprimées pendant des années par les gouvernements fédéraux et provinciaux. Et c'est quand même ce qu'il y a à retenir dans ce travail politique de Trudeau, c'est cette intégration des communautés autochtones qui est importante dans tout l'Arctique.
Camille Escudé, quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, en Alaska, donc dans la partie la plus au nord des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, quand il a été élu, a dit il faut absolument exploiter le pétrole partout où on peut le faire, et donc il a autorisé ce qui avait été interdit par les administrations précédente, des forages dans cette immense zone, un parc, c'est même plus qu'un parc naturel, le parc régional de l'Alaska. Et il y a des papiers qui sont sortis il y a une dizaine de jours à peu près dans la presse américaine, tendant à prouver que les chiffres des réserves annoncées, et donc des revenus probables, ont été outrageusement gonflés, et qu'en fait... ce parc naturel, maintenant, est sinon saccagé, en tout cas sérieusement abîmé, mais il n'y a pas les ressources escomptées.
Ça, c'est un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle des ressources de l'Arctique, c'est vrai qu'il y a un grand flou artistique entre les réserves prouvées, les réserves espérées, les sortes de projections qu'on fait à l'avenir sur les réserves de l'Arctique. Et c'est vrai que si on entend souvent la presse à sensation parler de nouvelles Eldorado, de réserves incroyables, aujourd'hui, la question, notamment pour le pétrole, pour le gaz, on a montré que c'est beaucoup plus clair, la question de l'exploitation pétrolière, elle est plus, voilà, plus davantage remise en question, sans compter les coûts énormes et tous les indicateurs économiques qu'il faut prendre en compte également pour que cette exploitation elle soit viable, parce qu'il suffit pas de trouver du pétrole, il suffit ensuite de l'exploiter à grands frais, de le transporter, et que cette exploitation reste viable, notamment en lien avec les cours du pétrole mondial. Est-ce que ça vaut encore le coup de dépenser tant d'argent pour une exploitation pétrolière qui est peut-être finalement pas si rentable?
Mika Merad, est-ce que ce sont des arbitrages auxquels les Russes, le pouvoir russe, parce qu'on sait à quel point la Rosneft, qui est la grande compagnie pétrolière, et Novatek, les grandes compagnies gazières, etc., sont évidemment proches du Kremlin. C'est une politique qui est conçue main dans la main entre les oligarques qui contrôlent ces énormes entreprises et le Kremlin. Est-ce que ces arbitrages-là ont donné lieu à des difficultés ou des déceptions du même genre? C'est évidemment plus facile à masquer.
Des déceptions aujourd'hui sur le pétrole et le gaz, il y en a absolument partout en Arctique. Il y en a eu en mer de Barents pour la Norvège, il y en a eu en Russie, il y en a eu au Groenland. Et au Groenland, ça a été dur, parce qu'au Groenland, quand ils ont obtenu en 2009 le statut de semi-autonomie pour devenir indépendants, ils ont beaucoup misé sur les explorations pétrolières qui étaient faites. Des milliards de dollars ont été investis et rien n'a été trouvé. En Alaska, les choses sont un petit peu différentes, puisque évidemment, on exploite du pétrole en Alaska. Vous connaissez tous Prudhoe Bay depuis les années 60. Donc il y a aujourd'hui des poches de concentration, d'investissement et de production aussi bien en Alaska qu'en Russie. Mais ce qui est important, c'est que sur ces 5 dernières années, le coût de revient d'un baril, donc le coût marginal d'un baril de pétrole dans un champ gazier ou pétrolier russe, alaskan ou même norvégien, il a diablement diminué. C'est-à-dire que vous aviez des champs, il y a encore 5 ans, avant les sanctions russes en 2014, qui affichaient des taux de rentabilité de, par exemple, $90 le baril, et c'était beaucoup trop cher pour être rentable.
À un moment où le pétrole cours mondial s'effondrait.
Absolument.
Et notamment 2015-2016.
Tout à fait. Et puis, depuis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements, notamment en Russie, en matière de politique managériale sur les champs, ce qui a permis de faire baisser les coûts de gestion du personnel. Il y a eu beaucoup d'innovations technologiques qui ont permis de faire baisser les coûts aussi d'exploration et de production. Et tous ces coûts-là qui ont été grappillés par-ci, par-là, ont fait que sur les 5 dernières années, vous avez des champs qui affichaient $80 le baril il y a 5 ans, qui aujourd'hui affichent 32, 35, 40. C'est vrai en Russie. C'est vrai, par exemple, pour Yamal LNG, le champ sur lequel, le projet sur lequel il y a Total. C'est vrai pour Arctic LNG 2, c'est vrai en Alaska. Et puis, même en offshore, et ça, c'est quelque chose qui était particulièrement inattendu, donc c'est-à-dire les exploitations pétrolières ou gazières qui sont en mer. Là aussi, vous avez une chute drastique des coûts marginaux d'exploitation qui font que, même en offshore aujourd'hui, l'Arctique est rentable dans certaines de ces zones.
Et il y a aussi un rapprochement très net entre Moscou et Riyad pour, en quelque sorte, coordonner leur production pétrolière de façon à influencer le cours mondial.
Tout comme il y avait eu un rapprochement très clair entre la Russie et la France au début des années 2010, Christophe de Margerie, l'ancien patron de Total, avait eu, on peut le dire, le nez creux vis-à-vis de tout cet enjeu arctique côté russe, puisque c'est lui véritablement qui a initié ces partenariats renforcés, avec Novatek notamment, des prises de participation capitalistiques croisées qui font qu'aujourd'hui Total bénéficie à plein du développement de l'Arctique russe, en particulier sur le gaz. Mais vous avez évidemment aussi Rosneft, Gazprom Neft et d'autres, Lukoil, qui essayent de bénéficier de tout ça et qui essayent de bénéficier de tout ça, non seulement sur tout simplement l'activité exploitation du pétrole, mais aussi sur tout ce qui vient à côté, notamment la construction navale par exemple, notamment les télécommunications et ainsi de suite. Petit à petit, les entreprises russes arrivent à développer des partenariats mondiaux sur une niche par-ci, une niche par-là, qui font qu'aujourd'hui, dans l'Arctique russe, les Russes pilotent une grande lame de fond de développement dans laquelle vous pouvez retrouver aussi bien des Chinois que des Sud-Coréens, que des Japonais, que des Émiratis, que des Indiens, que des Saoudiens, et ainsi de suite.
Mais avec une technologie russe, notamment, je crois qu'ils développent maintenant une génération de brise-glace nucléaire, à énergie nucléaire.
Alors, les Russes ont des brise-glaces nucléaires depuis plus de 70 ans. Donc ça, c'est pas une technologie nouvelle, mais là, ce qui est nouveau, c'est la magnitude de ces brise-glaces, c'est-à-dire la capacité de brisure de glace qu'ils ont. Aujourd'hui, les futurs brise-glaces russes qui vont arriver avec 2 cœurs nucléaires ou 3 cœurs nucléaires pour les différents projets qui sont actuellement en développement, devraient être capables de briser à tout moment de l'année 3 mètres, voire 4 mètres de glace, ce qui en fait veut dire que la Russie aura accès à l'ensemble de l'espace arctique. Mais c'est vrai aussi dans les technologies d'exploitation minière, pétrolière ou gazière, où ils sont partis des technologies importées des partenaires américains ou européens au début des années 2000 ou au début des années 2010. Aujourd'hui, ils ont développé les leurs. Et puis, les Chinois aussi ont développé les leurs entre-temps. Et aujourd'hui, c'est surtout des technologies chinoises qui vont permettre aux Russes d'exploiter l'Arctique.
Alexandre Tête, pour en revenir à la question des normes qui sont évidemment très importantes, si on revient à notre point de départ, c'est-à-dire le rapport du GIEC, c'est-à-dire bien évidemment le réchauffement climatique et ses multiples conséquences, même si un certain nombre d'États, à commencer par les États-Unis d'Amérique, continue de nier, enfin pas les États-Unis, mais le président américain continue de nier ce dérèglement climatique. Est-ce que cela veut dire que la manière dont on peut encadrer jusqu'à un certain point les comportements des États par un système de normes, un système de droit, c'est ce qui a fait progresser malgré tout le commerce international et la santé publique, entre autres, depuis un siècle et demi à peu près. Est-ce que cela veut dire là qu'on se heurte, les enjeux étant tellement considérables, à une incompatibilité d'intérêts? Il n'y a pas vraiment d'intérêt commun entre ces grandes puissances, Chine, Russie, États-Unis et d'autres pays qui sont moins directement concernés, comme les pays européens, à part les Scandinaves. Est-ce que les normes environnementales peuvent, à un moment donné, s'imposer, alors qu'encore une fois, les intérêts économiques et stratégiques sont tellement considérables?
En fait, je crois qu'il y a un chemin à explorer. Et il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est le moratoire sur la pêche qu'il y a eu dans l'Arctique, dans la partie centrale de l'océan Arctique. Donc en juillet 2015, les 5 États riverains décident tout seuls d'un moratoire qui ne concerne qu'eux, mais en fait, par cette exemplarité, il engage un petit peu de facto, même si c'était une forme de soft law, il a engagé un petit peu l'ensemble des pays qui avaient des flottes de pêche capables, même si c'était pas le cas actuellement, d'aller dans le futur là-bas. Et en fait, ce mécanisme a poussé à être innovant sur le plan juridique, sur le plan de la mécanique de négociation, puisque du coup, il a créé un effet d'entraînement avec, alors on va dire, donc quasiment 40 pays, puisque l'Union européenne participait à ce groupe. Donc finalement, un effet d'entraînement. Et il y a eu une coproduction entre les scientifiques et les politiques, puisque une réunion sur deux était soit scientifique, soit politique, pour arriver finalement à la signature de ce moratoire dans le futur. Donc en fait, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes normes d'excellence environnementale pour l'Arctique, mais peut-être que la pression internationale, la pression d'organisation internationale, d'ONG également, va contribuer à ces critères d'excellence. Alors c'est vrai qu'après, il y a des pays, vous citiez les pays scandinaves tout à l'heure, qui ont cette double facette. On voit quand même qu'ils arrivent à appliquer des critères d'excellence également d'exploitation. C'est possible. Lorsque les Russes font venir Total ou des Chinois, c'est aussi pour avoir des technologies de pointe et a priori quand même plus propres que ce qu'ils feraient eux-mêmes. Voilà. Et puis monter en compétence. Donc il y a peut-être un échange effectivement à la fois juridique, technologique à faire. Mais c'est vrai que ça reste un environnement très fragile dont il y a quand même une part d'ignorance scientifique, ou en tout cas d'incertitude. On le voit sur le changement climatique, les effets sont beaucoup plus violents qu'on imaginait, et des rétroactions dont on sous-estimait aussi les importances sur le climat mondial.
Mika Mered, si on essaie d'établir un échéancier, est-ce que l'on peut considérer qu'aujourd'hui, pendant les mois d'été en tout cas, oui, la navigation commerciale de grande ampleur, dont ces énormes porte-containers peuvent, et notamment chinois, peuvent naviguer. Je crois que ça raccourcit le temps de navigation de Shanghai à Rotterdam d'au moins 40%. Donc ça veut dire que la route par le canal de Suez va immédiatement perdre de son importance. Est-ce que l'on peut dire que dans les 10 ans qui viennent, véritablement, l'Arctique sera une zone de trafic beaucoup plus considérable qu'aujourd'hui?
Alors dans les 10 ans qui viennent, non. En revanche, dans la décennie 2030, oui, certainement. C'est-à-dire que, si vous voulez, en 2015, l'Union européenne, la Commission européenne, envisageait, avait une hypothèse de travail, comme quoi il y aurait peut-être environ 2000 navires qui navigueraient au nord du cercle polaire à l'année longue, à l'horizon 2030. Et puis, le Conseil de l'Arctique, en 2018, publie une étude qui montre qu'on est arrivé, en 2017, déjà, à plus de 1800 navires qui naviguaient en Arctique. Les choses se sont faites très rapidement.
Quand on dit navire, ça inclut les bateaux de croisière, par exemple. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de publicité pour ce genre de croisière aujourd'hui.
Vous avez tout à fait raison. Et du coup, il faut distinguer plein de types de trafic différents. Et les deux grands trafics différents à distinguer, c'est le trafic de destination. Donc, vous allez avoir un navire qui va venir d'ailleurs, donc du sud, en dehors de l'Arctique, et qui va acheminer des touristes, des ressources, ou que sais-je, en Arctique. Ou il peut faire l'inverse, il peut prendre des ressources ou des touristes et les acheminer en dehors de l'Arctique. Donc ça, c'est le trafic de destination. Puis vous avez le trafic donc de transit intercontinental, Europe-Asie. La distance, par exemple, sur un Rotterdam-Shanghai, en effet, elle se réduit de 40% en passant par l'Arctique plutôt que par les mers du Sud. Cependant, on navigue moins vite dans les eaux arctiques, pour plein de raisons, et pas juste à cause de la
glace. Et il y a le contrôle russe qui se fait, paraît-il, le contrôle militaire russe qui se fait de plus en plus visible.
Absolument. Donc du coup, l'Arctique, c'est pas non plus la panacée. Mais ce qui est important, et d'ailleurs, une étude que j'ai réalisée avec la fondation C'est Facile va le montrer dans quelques jours, c'est que vous avez petit à petit en Russie une logique qui consiste à dire on va développer plein de petits hinterlands, plein de petits ports tout au long de la route avec des centres de consommation ou des centres d'exportation multimodaux, donc mer plus train ou mer plus avions, qui vont petit à petit se développer, pour lesquels vous avez déjà des investissements, notamment chinois, sud-coréens, finlandais, norvégiens et autres. Donc petit à petit, ça se développe. Mais en réalité, si on se replace dans la logique chinoise de 2049, de cette fameuse Polar Silk Road, la route de la soie polaire, petit à petit, le rêve chinois, dirions-nous, de 2049 se matérialise. Et il se matérialise d'autant plus que vous avez des investissements en Arctique, dans la zone arctique, mais vous avez aussi des investissements en dehors de la zone arctique, par exemple entre Nikolaïevsk et le territoire chinois, qui permettrait à la Chine de se désenclaver par le nord.
Magali Vuillem, on va terminer quand même par l'enjeu majeur qui est celui de l'environnement. Finalement, l'Arctique, c'est un bien commun d'une certaine manière. Jusqu'à quel point est-ce que les enjeux environnementaux ont, à votre avis, la moindre chance de l'emporter sur ce choc des intérêts aussi bien économiques que géostratégiques qu'on vient de nous expliquer avec brio?
C'est une question très difficile à laquelle il est très difficile de répondre. On espère tous les ans qu'il va y avoir un sursaut pour que l'environnement passe avant des grands enjeux de développement industriel qui pourraient mettre un risque encore plus important sur les communautés locales. Et on espère que ce sursaut va arriver avec le prochain rapport du GIEC qui sort bientôt.
Alors le secrétaire général des Nations Unies organise un grand sommet sur le climat. On sait hélas à quel point ce genre d'exercice n'aboutit pas toujours à des résultats concrets.
Oui, effectivement. Et puis on a aussi l'accord de Paris, ce qui est un bon exemple dans lequel les États-Unis se sont retirés finalement quelques années après. Donc oui, ce sont des enjeux très difficiles à résoudre. Il faut les résoudre d'un point de vue collectivement et globalement si on veut qu'il y ait un impact et vraiment un impact positif et permettre donc le ralentissement de ce réchauffement climatique.
Bien, merci à vous tous de nous avoir fait découvrir cet univers complexe. Mais merci à vous donc, Magali Vuillem. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques. Vous travaillez à l'université de Versailles-Saint-Quentin et aussi au Québec à l'Observatoire politique et sécurité arctique. Merci à Camille Escudé, vous enseignez à Sciences Po et vous êtes la vice-présidente du groupe nordique au groupe d'études géopolitiques de Normalsup. Vous coordonnez un ouvrage qui va paraître dans quelques jours aux éditions Atland, les régions de l'Arctique. Au moins, le titre est clair. Merci à vous, Mika Mered. Vous aussi, vous allez sortir à la mi-octobre aux presses universitaires de France « Les mondes polaires ». Donc ce sera certainement un abrégé de toutes les questions complexes que vous nous avez expliquées. Merci à Alexandre Tête de la Fondation pour la Recherche Stratégique et je remercie bien sûr Igor Jurgens qui était avec nous par téléphone de Moscou, président de l'Institut du Développement Contemporain à Moscou. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Clément Daté, Hugo Boursier a préparé cette émission dont vous pourrez retrouver évidemment le contenu non seulement sur podcast, mais aussi vous pourrez trouver une bibliographie complémentaire que Hugo va mettre au point sur notre site. Et comme chaque samedi, maintenant, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Et je n'oublie pas Hamda Mostafavi de Courrier International, et Courrier d'ailleurs qui a publié il y a quelque temps un numéro spécial sur tous ces enjeux. Merci à tous. Et à samedi prochain.